Jules Verne, L'île à Hélice, première partie, chapitre 3, un Lucas Cicérone. Le lendemain, dès 7 heures, ces mots, ou plutôt ces cris, retentissent dans la chambre commune, après une éclatante imitation du son de la trompette, quelque chose comme la diane au réveil d'un régiment. « Allons, oup, sur pattes, et en deux temps !» vient de vociférer Pinchina. Hivernès, le plus nonchalant du quatuor, eût préféré mettre 3 temps, et même 4, à se dégager des chaudes couvertures de son lit. Mais il lui faut suivre l'exemple de ses camarades et quitter la position horizontale pour la position verticale. « Nous n'avons pas une minute à perdre, pas une seule, » observe son Altesse. « Oui, » répondit Sébastien Zorn, « car c'est demain que nous devons être rendus à San Diego. » « Bon, » réplique Hivernès, « une demi-journée suffira à visiter la ville de cet aimable Américain. » « Ce qui m'étonne, » ajoute Frascolin, « c'est qu'il existe une cité importante dans le voisinage de Fréchal. Comment notre coachman a-t-il oublié de nous l'indiquer ?»« L'essentiel est que nous y soyons, ma vieille clé de sol, » dit Pinchina, « et nous y sommes. » À travers 2 larges fenêtres, la lumière pénètre à flot dans la chambre, et la vue se prolonge pendant 1 mile sur une rue superbe plantée d'arbres. Les 4 amis procèdent à leur toilette dans un cabinet confortable, rapide et facile besogne, car il est machiné, suivant les derniers perfectionnements modernes. Robinet thermométriquement gradué pour l'eau chaude et pour l'eau froide, cuvette se vidant par basculage automatique, chauffe-bain, chauffe-fer, pulvérisateur d'essence parfumée fonctionnant à la demande, ventilateur moulinet actionné par un courant voltaïque, brosse mue mécaniquement, les unes auxquelles il suffit de présenter sa tête, les autres ses vêtements ou ses bottes, pour obtenir un nettoyage ou un cirement complet. Puis, en maint endroit, sans compter l'horloge et les ampoules électriques, qui s'épanouissent à portée de la main, des boutons de sonnette ou de téléphone mettent en communication instantanée les divers services de l'établissement. Et non seulement Sébastien Zorn et ses compagnons peuvent correspondre avec l'hôtel, mais aussi avec les divers quartiers de la ville, et peut-être, c'est l'avis de Pinchina, avec n'importe quelle cité des États-Unis d'Amérique, ou même des deux mondes, ajoute Hivernès. En attendant qu'ils eussent l'occasion de faire cette expérience, voici à 7h47 que cette phrase leur est téléphonée en langue anglaise. Callistus Minbar présente ses civilités matinales à chacun des honorables membres du quatuor concertant, et les prie de descendre, dès qu'ils seront prêts, au dining room d'Excelsior Hotel, où leur est servi un premier déjeuner. « Excelsior Hotel ?» dit Hivernès. « Le nom de ce caravansérail est superbe. » « Callistus Minbar, c'est notre obligeant américain. » remarque Pinchina. Et le nom est splendide. Mes amis, s'écrie le violoncelliste dont l'estomac est aussi impérieux que son propriétaire. Puisque le déjeuner est sur la table, allons déjeuner. Et puis, parcourons la ville, ajoute Frascolin. Mais quelle peut être cette ville? Le Parisien étant habillé, ou à peu près, Pinchina répond téléphoniquement qu'avant 5 minutes, ils feront honneur à l'invitation de Monsieur Callistus Minbar. En effet, leur toilette achevée, ils se dirigent vers l'ascenseur, qui se met en mouvement et les dépose dans le hall monumental de l'hôtel. Au fond se développe la porte du dining room, une vaste salle étincelante de dorures. « Je suis le vôtre, messieurs, tout le vôtre !» C'est l'homme de la veille qui vient de prononcer cette phrase de 8 mots. Il appartient à ce type de personnage dont on peut dire qu'ils se présentent d'eux-mêmes. Ne semble-t-il pas qu'on les connaisse depuis longtemps, ou pour employer une expression plus juste ? Depuis toujours. Callistus Minbar doit avoir de 50 à 60 ans, mais il n'en paraît que 45. Sa taille est au-dessus de la moyenne. Son gaster bedonne légèrement. Ses membres sont gros et forts. Il est vigoureux et sain avec des mouvements fermes. Il crève la santé, si l'on veut bien permettre cette locution. Sébastien Zorn et ses amis ont maintes fois rencontré des gens de ce type, ce qui n'est pas rare aux États-Unis. La tête de Callistus Minbar est énorme, en boule, avec une chevelure encore blonde et bouclée, qui s'agite comme une frondaison tortillée par la brise. Le teint est très coloré. La barbe jaunâtre, assez longue, se divise en pointe. La moustache est rasée. La bouche, relevée aux commissures des lèvres, est souriante, railleuse surtout. Les dents sont d'un ivoire éclatant. Le nez, un peu gros du bout, à narines palpitantes, solidement implantées à la base du front, avec 2 plis verticaux au-dessus, supporte un binocle, que retient un fil d'argent, fin et souple, comme un fil de soie. Derrière les lentilles de ce binocle rayonne un œil mobile, à l'iris verdâtre, à la prunelle allumée d'une braise. Cette tête est rattachée aux épaules par un cou de taureau. Le tronc est carrément établi sur des cuisses charnues, des jambes d'aplomb, des pieds un peu en dehors. Callistus Munbar est vêtu d'un veston très ample, en étoffe diagonale, couleur cachou. Hors de la poche latérale se glisse l'angle d'un mouchoir à vignettes. Le gilet est blanc, très évidé, à trois boutons d'or. D'une poche à l'autre festonne une chaîne massive, ayant à un bout un chronomètre, à l'autre un podomètre, sans parler des breloques qui tintinent à bulles au centre. Cette orfèvrerie se complète par un chapelet de bagues dont sont ornées les mains grasses et rosées. La chemise est d'une blancheur immaculée, raide et brillante d'empois, constellée de trois diamants, surmontée d'un col largement rabattu, sous le pli duquel s'enroule une imperceptible cravate, simple galon mordoré. Le pantalon d'étoffe rayée, à vaste pli, retombe en se rétrécissant sur des bottines lacées avec agrafes d'aluminium. Quant à la physionomie de ce Yankee, elle est au plus haut point expressive, tout en dehors. La physionomie des gens qui ne doutent de rien, et qui en ont vu bien d'autres, comme on dit. Cet homme est un débrouillard, à coup sûr. Et c'est aussi un énergique, ce qui se reconnaît à la ténacité de ses muscles, à la contraction apparente de son sourcilier et de son massétaire. Enfin, il rit volontiers avec éclat, mais son rire est plutôt nasal choral, une sorte de ricanement, le hénitus indiqué par les physiologistes. Tel est ce Callistus Munbar. À l'entrée du quatuor, il a soulevé son large chapeau, que ne déparerait pas une plume Louis XIII. Il serre la main des quatre artistes. Il les conduit devant une table, où bouillonne la théière, où fument les rôtis traditionnels. Il parle tout le temps, ne laissant pas place à une seule question, peut-être pour esquiver une réponse. Vantant les splendeurs de sa ville, l'extraordinaire création de cette cité, monologuant sans interruption, et lorsque le déjeuner est achevé, terminant son monologue par ces mots. « Venez, messieurs, et veuillez me suivre. Mais une recommandation... Laquelle ?» demande Frascolin. « Il est expressément défendu de cracher dans nos rues. »« Nous n'avons pas l'habitude, » proteste Ivernès. « Bon, cela vous épargnera des amendes. »«
Ne pas cracher ? En Amérique ?»
murmure Pinchina, d'un ton où la surprise se mêle à l'incrédulité. Il eût été difficile de se procurer un guide doublé d'un cicérone plus complet que Callistus Munbar. Cette ville, il la connaît à fond. Pas un hôtel dont il ne puisse nommer le propriétaire, pas une maison dont il ne sache qu'il habite, pas un passant dont il ne soit salué avec une familiarité sympathique. Cette cité est régulièrement construite. Les avenues et les rues, pourvues de vérandas au-dessus des trottoirs, se coupent à angle droit, une sorte d'échiquier. L'unité se retrouve en son plan géométral. Quant à la variété, elle ne manque point. Et dans leur style comme dans leur appropriation intérieure, les habitations n'ont suivi d'autres règles que la fantaisie de leurs architectes. Excepté le long de quelques rues commerçantes, ces demeures affectent un air de palais, avec leurs cours d'honneur flanquées de pavillons élégants, l'ordonnance architecturale de leurs façades, le luxe que l'on pressent à l'intérieur des appartements, les jardins, pour ne pas dire les parcs, disposés en arrière. Il est à remarquer toutefois que les arbres, de plantation récente sans doute, n'ont pas encore atteint leur complet développement. De même pour les squares, ménagés à l'intersection des principales artères de la ville, tapissés de pelouses d'une fraîcheur toute anglaise, dont les massifs, où se mélangent les essences des zones tempérées et torrides, n'ont pas aspiré des entrailles du sol assez de puissance végétative. Aussi cette particularité naturelle présente-t-elle un contraste frappant avec la portion de l'Ouest Amérique où abondent les forêts géantes dans le voisinage des grandes cités californiennes. Le quatuor allait devant lui, observant ce quartier de la ville, chacun à sa manière. Ivernès, attiré par ce qui n'attire pas Frascolin, Sébastien Zorn, s'intéressant à ce qui n'intéresse point Pinchina. Tous en somme très curieux du mystère qui enveloppe la cité inconnue. De cette diversité de vues devra sortir un ensemble de remarques assez justes. D'ailleurs, Callistus Munbar est là, et il a réponse à tout. Que disons-nous réponse ? Il n'attend pas qu'on l'interroge, il parle, et il n'a qu'à le laisser parler. Et il n'y a qu'à le laisser parler. Son moulin à parole tourne et tourne au moindre vent. Un quart d'heure après avoir quitté Excelsior Hotel, Callistus Munbar dit : « Nous voici dans la troisième avenue, et on en compte une trentaine dans la ville. Celle-ci, la plus commerçante, c'est notre Broadway, notre Regent Street, notre boulevard des Italiens. Dans ces magasins, ces bazars, on trouve le superflu et le nécessaire, tout ce que peuvent exiger les existences les plus soucieuses du bien-être et du confort moderne. « Je vois les magasins, » observe Panchina, « mais je ne vois pas les acheteurs. »« Peut-être l'heure est-elle trop matinale ?» ajoute Hivernes. « Cela tient, » répondit Callistus Munbar, « à ce que la plupart des commandes se font téléphoniquement, ou même télautographiquement. »«
Ce qui signifie ?» demande Frascolin.
« Ce qui signifie que nous employons communément le télautographe, un appareil perfectionné qui transporte l'écriture, comme le téléphone transporte la parole. » Sans oublier le kinétographe qui enregistre les mouvements, étant pour l'œil ce que le phonographe est pour l'oreille, et le téléphote qui reproduit les images. Ce télétographe donne une garantie plus sérieuse que la simple dépêche, dont le premier venu est libre d'abuser. Nous pouvons signer électriquement des mandats ou des traites.
Même des actes de mariage, réplique Panchina d'un ton ironique.
Sans doute, monsieur Lalto. Pourquoi ne se marierait-on pas par fil télégraphique?
Et pour divorcer?
Et divorcer? C'est même ce qui use le plus nos appareils. Là-dessus, bruyant éclat de rire du cicérone, qui fait trembloter toute la bibelotterie de son gilet.
Vous êtes gai, monsieur Bunbar, dit Panchina, en partageant l'hilarité de l'Américain.
Oui, comme une envolée de pinsons un jour de soleil. En cet endroit, une artère transversale se présente. C'est la 19e avenue, où tout commerce est banni. Des lignes de tram la sillonnent, ainsi que l'autre. De rapides cars passent sans soulever un grain de poussière, car la chaussée est recouverte d'un parquet imputrescible de caries et de jarrah d'Australie, pourquoi pas de l'acajou du Brésil, est aussi nette que si on l'eût frottée à la limaille. D'ailleurs, Frascolin, très observateur des phénomènes physiques, constate qu'elle résonne sous le pied, comme une plaque de métal.
« Voilà bien ces grands travailleurs du fer, se dit-il. Ils font maintenant des chaussées en tôle. »
Et il allait s'informer auprès de Callistus Munbar lorsque celui-ci de s'écrier « Messieurs, regardez cet hôtel !» Et il montre une vaste construction, d'aspect grandiose, dont les avant-corps, latéraux à une cour d'honneur, sont réunis par une grille en aluminium. Cet hôtel, on pourrait dire ce palais, est habité par la famille d'un des principaux notables de la ville. J'ai nommé Jem Tankardon, propriétaire d'inépuisables mines de pétrole dans l'Illinois, le plus riche peut-être, et par conséquent le plus honorable et le plus honoré de nos concitoyens.
« Des millions ?» demande Sébastien Zorn.
« Peu !» fait Callistus Munbar. « Le million, c'est pour nous le dollar courant. Et ici, on les compte par centaines. Il n'y a en cette cité que des nababs richissimes, ce qui explique comment, en quelques années, les marchands des quartiers du commerce se font fortune. J'entends les marchands au détail, car de négociants ou de commerçants en gros, il ne s'en trouve pas un seul sur ce microcosme unique au monde.
« Et des industriels ?»
demande Panchina.
« Absents, les industriels. »«
Et les armateurs ?» demande Frascolin.
« Pas davantage. »«
Des rentiers, alors ?» réplique Sébastien Zorn. « Rien que des rentiers et des marchands en train de se faire des rentes. »«
Eh bien, et les ouvriers ?»
observe Hivernes. « Lorsqu'on a besoin d'ouvriers, on les amène du dehors, messieurs. » Et lorsque le travail est terminé, il s'en retourne, avec la forte somme.
« Voyons, monsieur Munbar, » dit Frascolin,
« vous avez bien quelques pauvres dans votre ville, ne fût-ce que pour ne pas en laisser éteindre la race. »«
Des pauvres, monsieur le deuxième violon, vous n'en rencontrerez pas un seul. »«
Alors la mendicité est interdite ?»«
Il n'y a jamais eu lieu de l'interdire, puisque la ville n'est pas accessible aux mendiants. »
C'est bon, cela, pour les cités de l'Union, avec leurs dépôts, leurs asiles, leurs workhouses et les maisons de correction qui les complètent.
Mais les criminels?
Ils sont priés de rester dans l'ancien et le nouveau continent, où leur vocation trouve à s'exercer dans des conditions plus avantageuses.
Et vraiment, monsieur Munbar, dit Sébastien Zorn, on croirait à vous entendre que nous ne sommes plus en Amérique.
Vous y étiez hier, monsieur le violoncelliste? Répond cet étonnant cicérone.
« Hier ?» réplique Frascolin, qui se demande ce que peut exprimer cette phrase étrange.
« Sans doute. Aujourd'hui, vous êtes dans une ville indépendante, une cité libre, sur laquelle l'Union n'a aucun droit, qui ne relève que d'elle-même. »«
Et qui se nomme ?»
demande Sébastien Zorn, dont l'irritabilité naturelle commence à percer.
« Son nom ?» répond Callistus Munbar.
« Permettez-moi de vous le taire encore. »
Et quand le saurons-nous ? Lorsque vous aurez achevé de la visiter, ce dont elle sera très honorée d'ailleurs. Cette réserve de l'Américain est au moins singulière. Peu importe, en somme. Avant midi, le quatuor aura terminé sa curieuse promenade, et dût-il n'apprendre le nom de cette ville qu'au moment de la quitter, cela lui suffira, n'est-il pas vrai ? La seule réflexion à faire est celle-ci. Comment une cité si considérable occupe-t-elle un des points de la côte californienne sans appartenir à la République fédérale des États-Unis ? Et d'autre part, comment expliquer que le conducteur du coach ne se fût pas avisé d'en parler ? L'essentiel avant tout est que dans les 24 heures, les exécutants aient atteint San Diego, où on leur donnera le mot de cette énigme, si Callistus Munbar ne se décide pas à le révéler. Ce bizarre personnage s'est de nouveau livré à sa faconde descriptive, non sans laisser voir qu'il désire ne point s'expliquer plus catégoriquement. « Messieurs, dit-il, nous voici à l'entrée de la 37e avenue. Contemplez cette admirable perspective. Dans ce quartier non plus, pas de magasin, pas de bazar, ni ce mouvement des rues qui dénote l'existence commerciale. Rien que des hôtels et des maisons particulières. Mais les fortunes y sont inférieures à celles de la 19e avenue. Des rentiers à 10 ou 12 millions. Des gueux, quoi, répond Pinchina, dont les lèvres dessinent une moue significative. Eh, monsieur l'Alto, réplique Callistus Munbar. Il est toujours possible d'être le gueux de quelqu'un. Un millionnaire est riche par rapport à celui qui ne possède que 100 000 francs. Il ne l'est pas par rapport à celui qui possède 100 millions. Maintes fois déjà, nos artistes ont pu noter que de tous les mots employés par leur cicérone, celui de « million » revient le plus fréquemment. Un mot prestigieux s'il en fut. Il le prononce en gonflant ses joues avec une sonorité métallique. On dirait qu'il bâmonnait rien qu'en parlant. Si ce ne sont pas des diamants qui s'échapperont de ses lèvres, comme de la bouche de ce filleul des fées qui laissait tomber des perles et des émeraudes, ce sont des pièces d'or. Et Sébastien Zorn, Pinchina, Frascolin, Iverness vont toujours à travers l'extraordinaire ville dont la dénomination géographique leur est encore inconnue. Ici des rues animées par le va-et-vient des passants, tous confortablement vêtus, sans que la vue soit jamais offusquée par les haillons d'un indigent. Partout des trams, des haquets, des camions mus par l'électricité. Certaines grandes artères sont pourvues de ces trottoirs mouvants, actionnés par l'attraction d'une chaîne sans fin et sur lesquels les gens se promènent, comme ils le feraient dans un train en marche, en participant à son mouvement propre. Circulent aussi des voitures électriques, roulant sur les chaussées, avec la douceur d'une bille sur un tapis de billard. Quant à des équipages, au véritable sens de ce mot, c'est-à-dire à des véhicules traînés par des chevaux, on n'en rencontre que dans les quartiers opulents. « Ah, voici une église !» dit Frascolin. Et il montre un édifice d'une assez lourde contexture, sans style architectural, une sorte de pâté de Savoie, planté au milieu d'une place aux verdoyantes pelouses. « C'est un temple protestant !» répond Callistus Munbar, en s'arrêtant devant cette bâtisse. « Y a-t-il des églises catholiques dans votre ville ?» demande Iverness. « Oui, monsieur. » D'ailleurs, je dois vous faire observer que, bien que l'on professe environ 1000 religions différentes sur notre globe, nous nous en tenons ici au catholicisme et au protestantisme. Ce n'est pas comme en ces États-Unis, désunis par la religion, s'ils ne le sont pas en politique, où il y a autant de sectes que de familles, méthodistes, anglicans, presbytériens, anabaptistes, wesleyens, etc. Ici, rien que des protestants fidèles à la doctrine calviniste ou des catholiques romains. Et quelle langue parle-t-on ? L'anglais et le français sont employés couramment. Ce dont nous vous en félicitons, dit Pinchina. La ville, reprend Callistus Munbar, est donc divisée en deux sections, à peu près égales. Ici, nous sommes dans la section « Ouest, je pense », fait observer Frascolin en s'orientant sur la position du soleil. « Ouest, si vous voulez. »« Comment si je veux ?» réplique le deuxième violon, assez surpris de cette réponse. Est-ce que les points cardinaux de cette cité varient au gré de chacun ? Oui et non, dit Callistus Munbar. Je vous expliquerai cela plus tard. J'en reviens donc à cette section, ouest, si cela vous plaît, qui est uniquement habitée par les protestants. Restez, même ici, des gens pratiques. Tandis que les catholiques, plus intellectuels, plus raffinés, occupent les sections est. C'est vous dire que ce temple est le temple protestant. Il en a bien l'air. Observe Iverness. Avec sa pesante architecture, la prière n'y doit point être une élévation vers le ciel, mais un écrasement vers la terre. Belle phrase, s'écrie Pinchina. Monsieur Munbar, dans une ville si modernement machinée, On peut sans doute entendre le prêche ou la messe par le téléphone.
Juste.
Et aussi se confesser. Tout comme on peut se marier par le télétographe. Et vous conviendrez que cela est pratique.
À ne pas le croire, monsieur Munbar, répond Pinchina. À ne pas le croire.